Bonjour à vous tous, je vous souhaite une très joyeuse fête des trompettes. Nous débutons aujourd'hui les fêtes d'automne et nous allons jeter nos regards vers l'avenir, vers des événements prophétisés pendant les prochaines semaines. Mais avant de jeter nos regards vers l'avant, je voudrais remonter un peu dans le temps, jusque dans les années 1940. Dans les jours sombres du mois de juin 1940, quand les armées nazies déferlaient sur l'Europe occidentale, une voix française s'est élevée à Londres par la radio pour dire à la France que tout n'était pas perdu. Le 18 juin, le général de Gaulle a parlé sur le BBC. Entre autres choses, il a dit ceci. Certes, nous avons été submergés par la force mécanique terrestre et aérienne de l'ennemi. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Un discours très connu, à la fin de laquelle il a invité d'autres Français de se rallier à lui à Londres et les forces libres françaises ont commencé. Il a dit « Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. » Vers le même moment, de l'autre côté de la terre, des forces militaires de l'Axe gagnaient aussi sur tous les fronts. Au Pacifique, les Japonais avaient détruit une très grande partie de la flotte américaine du Pacifique et ses forces avançaient sur les Philippines sur la route vers l'Australie. Le général Douglas MacArthur avait choisi de repousser des Japonais sur le presqu'île de Bataan et l'île de Corregidor, juste en face de Manille. Avec des soldats à la fois philippins et américains, il les a repoussés, retenus pendant des semaines, mais cela ne pouvait pas durer. Le président Roosevelt avait ordonné au général de quitter Corregidor pour se rendre en Australie, afin d'organiser la défense de ce continent et de cette partie du Pacifique. Il est parti en vedette rapide pour un voyage de quelques 3000 kilomètres par bateau et par avion avant d'arriver en Australie. Et à son arrivée, MacArthur a dit ceci. Le président des États-Unis m'a donné l'ordre de passer à travers les lignes ennemies dans le but d'organiser l'offensive alliée contre le Japon. Je suis arrivé et je retournerai. Et cette phrase est devenue vraiment célèbre. Plus tard, dans un livre qu'il a écrit, qu'il a intitulé « Réminiscence », il a écrit ceci. La phrase « je retournerai » semblait être une promesse magique pour les Philippins. Elle a allumé une flamme qui est devenue un symbole qui a concentré la volonté indomptable de la nation. Et c'est vrai. Pendant toute la période de l'occupation japonaise aux Philippines, il y avait une résistance féroce et beaucoup de préparation pour le retour des forces alliées, finalement. Cette phrase est devenue un sujet d'espoir. Je retournerai un sujet d'espoir pour des milliers, des dizaines de milliers, peut-être même jusqu'à des centaines de milliers de Philippins sous l'occupation japonaise. Et il a tenu parole. Il est retourné, arrivant à l'été, au mois d'octobre 1944. Et il y a une photo très connue du général MacArthur en train de, jusqu'au genou dans l'eau de mer, à débarquer sur cette île. Pour la petite histoire, il a dû répéter l'expérience. Les caméras n'avaient pas bien fonctionné la première fois. Il est retourné dans l'eau, il est revenu une deuxième fois pour se faire prendre en photo. Et la photo est devenue historique. Ce sont des histoires que nous connaissons, qui sont assez inspirantes comme histoire, mais c'est une histoire de plus en plus ancienne maintenant. Ces deux généraux sont morts depuis longtemps. La Deuxième Guerre mondiale n'est qu'un souvenir de plus en plus lointain. Mais un autre homme a promis, il y a des milliers d'années, de revenir sur Terre. Et le jour que nous célébrons aujourd'hui commémore cette promesse qu'il va revenir. Dans Matthieu chapitre 20, verset 17, nous pouvons commencer à lire à propos de ces promesses que Jésus-Christ a faites. Matthieu chapitre 20, verset 17. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Jésus a expliqué à l'avance tout ce qu'il devait subir, selon le plan que Dieu avait déjà établi. Et puis dans Jean chapitre 14, à partir du verset 3, nous lisons justement cette promesse que Jésus a donnée, de revenir, de retourner sur la terre. Jean chapitre 14, verset 3. « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je reviendrai. » Verset 28 également. « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. » Je reviendrai. Jésus a promis de le faire. Maintenant, l'humanité, en général, a oublié cette promesse. Et même une bonne partie de la population du monde n'a jamais connu qu'il y ait eu une telle promesse. Peu de gens, même peu de chrétiens, aujourd'hui croient littéralement que Jésus-Christ va revenir et établir le royaume de Dieu sur terre. L'attitude de la plupart des gens aujourd'hui, c'est plutôt l'attitude que Pierre a décrite dans 2 Pierre 3, verset 4. Où est la promesse? Où est la promesse que Jésus reviendra? Il n'y croit pas. La promesse est dans la Bible et la promesse est dans le jour que nous célébrons aujourd'hui. Jésus-Christ reviendra au son de la septième trompette, comme nous allons le voir tout à l'heure. C'est une bonne chose à faire lors de la fête des trompettes de nous remémorer de rappeler à nos souvenirs, à notre mémoire, les promesses que Jésus a faites et ce qui est représenté par ce jour, la fête des trompettes. Quelle sera la séquence des événements? Il y a plusieurs façons de le décrire. Je vais regarder une aujourd'hui, la séquence des événements. Commençons dans Marc chapitre 13. Marc chapitre 13. Verset 32. Marc chapitre 13, verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Au moment où Jésus a prononcé ces paroles, il ne savait pas exactement quand ce serait le moment. Peut-être qu'il le sait maintenant, mais surtout à ce moment-là, les anges ne savaient pas, Jésus-Christ ne savait pas, seulement le Père savait quand tous les éléments de son plan seraient prêts et qu'il doit enclencher cette étape très importante. Ensuite, reportons-nous dans Apocalypse 19. Apocalypse 19. Verset 11. Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Jésus-Christ sera visible sur ce cheval blanc pendant qu'il va descendre sur terre à la tête de son armée. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Verset 25. Matthieu chapitre 24, verset 25. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance, si donc on vous dit voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Tout comme on voit facilement les vautours quand ils tournent autour de quelque chose qu'ils vont manger, un corps mort, eh bien, de la même façon, quand Jésus-Christ viendra, ça sera très visible, très voyant. Il n'y aura pas de possibilité d'erreur. Verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Jésus-Christ sera visible au monde entier. Apocalypse chapitre 1, verset 7 dit « Tout œil le verra ». Apocalypse 1, verset 7. « Tout œil le verra ». La terre entière verra Jésus-Christ quand il descendra sur ce cheval blanc. Revenons dans Apocalypse, Apocalypse 11. Apocalypse 11, verset 15. Apocalypse chapitre 11, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Ceci aura lieu au son de la voix d'un archange, comme nous le lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns des autres par ces paroles. Christ descendra du ciel à la voix d'un archange, au son de la septième trompette. Et c'est le son de cette trompette qui nous rappelle la signification de ce jour. Une fête qu'on devait célébrer au son de trompette. Et nous voyons la signification de ce jour. Je vous donne comme référence, si vous le faut, Lévitique chapitre 23, verset 23, vous le connaissez bien. Une fête publiée au son des trompettes. Matthieu chapitre 24, poursuivons. Matthieu chapitre 24, verset 30. Matthieu chapitre 24, verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Les anges de Dieu, les anges fidèles et saints, vont rassembler les élus du monde entier pour les ramener là où Jésus-Christ va atterrir. Ce sera la plus grande réunion de famille que nous ne pouvons imaginer. Avec des membres de la famille, les membres lointains, les membres proches, beaucoup qu'on n'aurait jamais rencontrés avant ce moment-là, mais comme nous serons transformés en enfants de Dieu, nous allons savoir qui nous sommes. Nous saurons immédiatement les noms des uns et des autres, les passés, les histoires. C'est difficile pour nous d'imaginer, on ne peut le faire qu'à peine imaginer la joie que nous aurons pendant cette période. De savoir que le combat est gagné définitivement, que la mort c'est fini, nous n'aurons plus de douleur, la mort n'aura plus de pouvoir sur nous, nous aurons reçu la vie éternelle. Imaginez les émotions de ce moment-là, c'est formidable. Nous le voyons parfois. On l'a vu un peu dans les Jeux Olympiques récemment. Il vient un moment quand une équipe ou un athlète sait qu'il a gagné. Et on voit son visage changer quand il se rend compte. Ça y est, j'ai gagné. La joie s'exprime manifestement, très visiblement. Ça, ce n'est qu'une petite partie de ce que nous allons ressentir à ce moment-là. Quand nous saurons que c'est fait, nous avons gagné à ce moment-là. On ne peut plus perdre. 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. 1 Corinthiens 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Et lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, « La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Il nous donne la victoire, et nous allons ressentir cette grande joie à ce moment-là quand nous saurons que c'est fait. C'est fait, c'est gagné définitivement. Ce sera un moment vraiment magnifique. Regardons aussi Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, verset 20. Philippiens chapitre 3, verset 20. Il est question de notre transformation dans ce passage. Philippiens 3, 20. « Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Notre corps sera transformé. Le corps de notre humiliation, et plus nous vieillissons dans la vie, plus nous sommes... Nous avons des humiliations dans nos corps qui ne fonctionnent plus, qui font mal, ça et là. Nous ne pouvons plus faire des choses que nous pouvions faire auparavant. C'est humiliant. Mais là, on recevra un autre corps, transformé, semblable au corps de sa gloire. À quoi ça va ressembler, je ne sais pas. Il y a des questions dans la Bible de le visage de Dieu comme le soleil en pleine force. Ça doit être quelque chose dans ce genre. Et nous allons expérimenter cela tous ensemble. Tous les enfants de Dieu en même temps. Fini les problèmes de santé à tout jamais, les douleurs, plus de lunettes, plus de kilos en trop, plus de maladies, plus de vieillesse, plus toutes ces choses qui nous occupent tant dans cette vie. Fini une fois pour toutes. Nous aurons des corps éternels, de jeunesse, la force de l'âge à tout jamais. Nous allons tous retrouver nos 20 ans, mais avec la sagesse de l'âge également. Ensuite, Apocalypse 19. Apocalypse 19. Verset 19. Apocalypse 19, verset 19. « Je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. » Les armées du monde entier vont se liguer pour essayer d'empêcher Jésus-Christ de revenir sur terre, établir son royaume. Et nous lisons un peu à propos de cette confrontation qui aura lieu dans Zacharie chapitre 14. Zacharie 14, verset 12. Zacharie chapitre 14, verset 12. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre et ils lèveront la main les uns sur les autres. Cette armée rebelle sera complètement détruite par le retour de Jésus-Christ. Et il deviendra roi des rois et seigneur des seigneurs. Regardez le verset 9 de Zacharie 14. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel. Et son nom sera le seul nom. Un seul Dieu pour tous les habitants de la terre. Et nous allons assister Jésus-Christ, le roi des rois, nous serons des sous-rois. Nous allons l'aider à être en tant que roi et sacrificateur pour aider Jésus-Christ à mettre en place le royaume de Dieu et l'administrer pendant les 1000 ans. Ça sera vraiment un moment, des moments inoubliables, les moments les plus exaltants de toute notre existence. Eh bien, qu'est-ce que nous pouvons apprendre d'autre? Qu'en est-il de nous personnellement dans cette situation? Nous avons eu des descriptions de groupes, si vous voulez, mais qu'en serait-il de nous? Eh bien, considérons quelques passages. Par exemple, 2 Thessaloniciens, chapitre 1. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Ça vous décrit. Ça me décrit ici, après les afflictions que nous aurons affrontées, subies à cause de notre obéissance à Dieu, les persécutions, l'opposition, il va nous glorifier. Et ceux qui ont maltraité les chrétiens à travers l'histoire, ils auront leur juste récompense. Est-ce que on peut s'imaginer là, dans une telle situation, de recevoir cette récompense, cette gloire de la part de Dieu? Ça parle de nous, frères et sœurs. Et dans 2 Timothée chapitre 4, juste quelques pages après, 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4, verset 1. Chose à méditer dans le contexte de la fête des trompettes. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Là, c'est une instruction à Timothée, mais nous prêchons la parole tous ensemble. Nous unissons nos efforts pour prêcher la parole à toute la terre. Verset 7. Paul dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. » Il a continué l'œuvre de Dieu jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le faire, jusqu'à ce que la possibilité disparaisse. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Nous allons recevoir cette couronne de gloire, de joie et de gloire. Nous devons garder nos yeux fixés sur ces moments-là et continuer jour après jour à nous battre dans ce bon combat. Comme Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Verset 13. 1 Pierre chapitre 4, verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Nous serons dans la joie, nous serons dans l'allégresse, sans doute l'allégresse la plus intense que nous n'ayons jamais connue de nos vies, jusqu'à ce moment-là. Ça, c'est une chose que nous ne voulons pas perdre, nous ne voulons pas passer à côté de ces moments-là. Voilà, frères et sœurs, en révision, ce que la fête des trompettes nous enseigne. Maintenant, à la lumière de ce que nous avons vu et revu dans la Bible, qu'est-ce que nous devrions faire? Ça devrait nous motiver à faire quoi? Regardons 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Que devons-nous faire à la lumière de ce que la fête des trompettes nous enseigne? 1 Jean chapitre 2, verset 28. 1 Jean 2, 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Nous devons demeurer près de lui, il est marqué, pour ne pas avoir honte. Se peut-il qu'il y ait des chrétiens qui, comme des vierges folles, ne sont pas préparés comme il faut, ils n'ont pas pris de l'huile, ne sont pas restés proches de Dieu et qu'ils aient honte à ce moment-là? Apparemment, c'est possible, puisque cet avertissement est là pour nous. Nous devons rester près de Dieu pour ne pas avoir honte. On ne peut pas laisser les choses à plus tard. Ouais, je verrai ça après. Aujourd'hui, je m'amuse. Plus tard, je ferai ce qu'il faut. Nous ne savons pas combien de temps nous avons. Nous devons œuvrer, travailler à l'œuvre de Dieu maintenant. Nous devons faire luire notre lumière autour de nous, la lumière qui vient de la présence du Saint-Esprit et l'activité du Saint-Esprit en nous. Nous devons être attentionnés au service de ceux qui nous entourent. Nous devons pratiquer de bonnes œuvres. Et nous devons rester proches de Dieu par la prière et par l'étude de sa parole, par la réflexion. Sa loi, ses instructions ne doivent jamais être loin de nos esprits. Ça doit nous guider jour après jour. Luc 21 nous avertit contre autre chose qu'il faut faire. Luc chapitre 21, verset 36. Luc 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. De paraître debout, ça c'est une autre manière de dire, ne pas avoir honte. On veut être debout, on ne veut pas être à terre. Nous voulons être debout au moment quand il reviendra. Veillez et priez en tout temps, veillez sur nous-mêmes. Parfois, dans le passé, on appliquait ceci surtout aux veillées aux événements dans le monde. Mais le principe numéro un, c'est de veiller sur nous-mêmes, notre propre état spirituel, d'être certain que nous sommes corrects devant Dieu, que nous nous penchons sur lui pour tout ce qu'il nous faut. Nous devons prier en tout temps. 1 Thessaloniciens chapitre 3. 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 12. 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 12. Et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Dans le contexte de son retour, dans le contexte de l'accomplissement de la fête des trompettes, voici certaines choses que nous devons faire très précisément. Nous devons croître dans l'amour que nous avons les uns pour les autres, selon l'exemple que Jésus nous a montré. Il a été motivé par l'amour dans tout ce qu'il a fait. Et ça devrait être notre motivation également. Nos cœurs doivent être fermes dans notre engagement pour Dieu. Et nous voulons être irréprochables. Maintenant, nous sommes pécheurs encore, nous commettons des erreurs, nous tombons parfois dans le péché, mais on peut redevenir irréprochable si nous nous repentons devant Dieu et nous demandons pardon de nouveau. Là, il nous blanchit, nous purifie, et nous devenons de nouveau irréprochables. Mais c'est un effort de tous les jours, quelque chose que nous devons faire vraiment tous les jours. Il faut être à Dieu à part entière. Nos cœurs fermes, purs, propres, nous devons faire attention à nos vies, notre façon de vivre nos vies. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Verset 42. Matthieu chapitre 24, verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et alors qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous avons la promesse d'énormes bénédictions en cas de fidélité et de la honte en cas d'infidélité. Et cela devrait être une grande motivation pour nous. Nous devons être occupés tous les jours à notre partie de l'œuvre de Dieu. Et nous avons plusieurs rôles à jouer pour accomplir l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Nos prières sont importantes, notre soutien financier est important. Pour certains, ça va être la possibilité d'écrire ou de prononcer des sermonnettes ou des sermons. Nous devons vivre chaque jour comme si c'était notre dernier, car qui d'entre nous sait combien de jours nous avons devant nous encore? Alors on se pose la question, est-ce que ma lumière brille? Est-ce que ma lumière brille vraiment? Est-ce que je suis un reflet fidèle du caractère de Dieu, de mon père et de mon frère aîné? Ça devrait être le cas. Car personne ne sait combien de temps il va vivre. Et si je suis renversé par un camion ce soir, c'est pour moi comme si c'était ce soir que Christ viendrait. Et c'est pareil pour nous tous. Finalement, 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Verset 1. 1 Jean, chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Autre chose que nous devons faire, à la lumière de la vérité que Jésus-Christ revient, et qu'il y aura un jugement et un rendement de compte à ce moment-là, nous devons nous purifier. Nous pouvons être dans la joie de savoir tout ce que Dieu nous a réservé. Nous pouvons savoir aussi que nous aurons de grandes responsabilités pour lesquelles nous devons nous préparer maintenant. Nous devons être en préparation. Dieu nous a donné et il nous donne tellement que nous devons déployer toutes nos forces pour lui être agréable, pour lui être fidèle dans ce que nous avons à faire pour accomplir toute sa volonté. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, MacArthur est revenu. Son côté, les Alliés, a gagné la guerre contre l'Axe. Mais c'est de l'histoire passée maintenant. Nous sommes occupés à une autre lutte qui a lieu jour après jour pendant toute notre vie. Dieu nous a appelés à être de son côté gagnant dans cette lutte du bien contre le mal. Jésus-Christ va revenir pour le bien-être de toute l'humanité, établir le royaume de Dieu, transformer la vie physique, la vie humaine sur terre. À nous de faire notre part maintenant pour accomplir sa volonté et pour hâter son retour. Je vous souhaite une bonne reste de la fête des trompettes et une excellente saison des fêtes de l'Éternel.